Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Question palestinienne tient à cœur au peuple indonésien, a déclaré le vice-président. Ministre coordinateur de l'économie a déclaré que l'économie verte avait stabilisé l'économie indonésienne à 6,22%. L'OIKN est optimiste quant au bon déroulement de la cérémonie du 79e jour de l'indépendance indonésienne à l'IKN. Ambassadeur Zuhairi a expliqué la diplomatie économique entre l'Indonésie et la Tunisie s'intensifier. Comité de l'ONU a salué la cohérence de l'Indonésie dans la lutte pour les droits du peuple palestinien. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative a déclaré que l'Indonésie et l'Iran disposeraient bientôt de vols directs. Voici le journal complet. Le vice-président Maruf Amin a déclaré que les questions liées à la Palestine tiennent très à cœur au peuple indonésien et que l'Indonésie est très préoccupée par la situation qui ne s'est pas améliorée en Palestine. C'est ce qu'a déclaré le vice-président lors de la visite d'une délégation du Comité des Nations Unies pour la mise en œuvre des droits inaliénables du peuple palestinien, CEIRPP, au palais du vice-président à Jakarta jeudi 4 juillet. Le vice-président a souligné le soutien de l'Indonésie à l'indépendance palestinienne dans le cadre du mandat de la Constitution visant à éliminer le colonialisme dans le monde. Le vice-président a ajouté qu'en tant que l'un des pays comptant la plus grande population musulmane au monde, l'Indonésie joue un rôle important dans l'encouragement de la paix en Palestine, notamment à travers son leadership au sein de l'OCI, du MNA et du CEIRPP. À cette occasion, l'observateur permanent de l'État de la Palestine auprès de l'ONU, Riyad H. Mansour, a exprimé sa gratitude à l'Indonésie pour son plein soutien à la Palestine. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, a déclaré que la mise en œuvre d'une économie verte pourrait stabiliser la croissance économique de l'Indonésie à un niveau moyen de 6,22% jusqu'en 2045. Erlangga, virtuellement présent à l'expo sur l'économie verte 2024, cité par Antara dans sa déclaration jeudi 4 juillet, a déclaré que la mise en œuvre d'une économie verte à long terme réduit les émissions de 86 millions de tonnes d'équivalent CO2 et crée jusqu'à 4,4 millions d'emplois. Erlangga a souligné qu'une économie verte est non seulement importante pour atteindre les objectifs de croissance économique, mais aussi comme une étape stratégique pour sortir du piège des pays à revenus intermédiaires vers des pays à revenus élevés équivalents aux pays développés. Il a évoqué deux principales opportunités dans le développement d'une économie verte, à savoir la transition des activités économiques existantes et la création de nouveaux pôles de croissance économique. Le chef adjoint par intérim de l'autorité IKN, OIKN, Raja Juli Anthony, dans sa déclaration citée par Antara jeudi 4 juillet, s'est montré optimiste quant à la cérémonie du 79e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie, le 17 août 2024, se passerait bien. Auparavant, le ministre des Travaux publics et du Logement public, PUPR, en tant que chef par intérim de l'autorité de la capitale de Nusantara, OIKN, Basuki Hadi Mulyono a révélé que les préparatifs pour le jour de l'indépendance de la République d'Indonésie, à l'IKN, étaient complètement prêts. Le président Joko Widodo vérifiera un par un le lieu et le déroulement de la célébration du jour de l'indépendance de la République d'Indonésie, à l'IKN. Basuki a également déclaré qu'en août, 12 tours d'appartements de la SN à l'IKN seront prêts à être occupés par les participants à la cérémonie. Tandis que le site du bureau du ministre sera également achevé et pourra donc être occupé. Le palais présidentiel a également été achevé. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Tunisie, Zuhairi Misraoui, a expliqué que la diplomatie économique de l'Indonésie avec la Tunisie continue de s'améliorer. Zuhairi, lors de sa présence jeudi à la radio nationale tunisienne, a déclaré que sa partie continue d'explorer une coopération commerciale plus concrète et à long terme entre les deux pays. L'un d'eux passe par les négociations en cours dans le contexte de l'accord commercial préférentiel PTA. Il est optimiste quant au fait que l'accord commercial préférentiel pourra être convenu et signé par les deux pays dans un avenir proche. Selon lui, l'élargissement de la coopération économique est une étape à long terme qui peut être franchie par les deux parties, compte tenu des relations bilatérales historiques et solides entre les deux pays depuis l'époque du président Soekarno et du président Habib Bourguiba dans les années 50. Zuhairi Misraoui a ajouté que dans la pratique, la diplomatie économique continue d'être encouragée par la création de réseaux entre les entrepreneurs indonésiens et tunisiens. Le bureau du Comité des Nations Unies pour la mise en œuvre des droits de l'homme du peuple palestinien, Zebrik du peuple palestinien, ou CEIRPP, a salué l'Indonésie comme l'un des pays les plus cohérents dans la lutte pour l'indépendance et les droits du peuple palestinien. Le président du CEIRPP et représentant permanent du Sénégal auprès de l'ONU, Cheikh Niang, lors d'une conférence de presse à Jakarta, a apprécié et reconnu jeudi la contribution très forte, cohérente et utile de l'Indonésie à la Palestine. La cohérence de l'Indonésie dans la défense de la Palestine à l'ONU peut être démontrée par la participation active de l'Indonésie au bureau du comité qui a été créé sur la base de la résolution numéro 3376 de l'Assemblée générale de l'ONU, adoptée en 1975. Le représentant du Sénégal à l'ONU a également déclaré que l'Indonésie était l'un des pays qui avait immédiatement déclaré la reconnaissance de la souveraineté palestinienne le 15 novembre 1988, le même jour après la proclamation de l'indépendance palestinienne par le dirigeant palestinien à cette époque, Yasser Arafat. En raison de son rôle important, Niang a déclaré que l'Indonésie était l'un des principaux leaders dans la lutte du peuple palestinien sur la scène internationale. Le directeur de la gestion des investissements au ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Zulkifli Harahap, a déclaré que l'Indonésie et l'Iran disposeront bientôt de vols directs pour accroître la coopération touristique entre les deux pays. Zulkifli, après avoir assisté jeudi le roadshow du tourisme en Iran à Jakarta, a déclaré que le protocole d'accord n'était qu'une question de signature. Zulkifli a déclaré que les vols directs Indonésie-Iran et vice-versa sont une bonne opportunité pour l'industrie du tourisme. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a lui-même mené plusieurs recherches pour explorer les potentiels du tourisme et de l'économie créative qui peuvent être offerts à l'Iran et vice-versa. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Effort pour traquer la droite au pouvoir en France » avec moi, Audrey. Ce jeudi tard, plus de 200 candidats aux élections législatives anticipées en France se sont retirés pour laisser la place à des candidats plus forts qui pourraient avoir plus de chances d'affronter le Rassemblement national d'extrême droite. Selon le Premier ministre français Gabriel Attal, membre de l'Alliance centriste soutenue par le président Emmanuel Macron, la raison du retrait des candidats de la course était d'éviter une division des voix face à la droite. Les démissions visaient également à faire de la place à d'autres candidats qui pourraient avoir plus de chances de vaincre les candidats de droite. Le 9 juin, le président Macron a dissous le Parlement et convoqué des élections anticipées après que le Rassemblement national ait remporté plus de 31% des voix aux élections au Parlement européen, battant le bloc centriste qu'il dirigeait. L'importance du parti de droite du Rassemblement national inquiète de nombreuses personnes en raison du nombre de programmes qu'il propose. Par exemple, le plan n'inclut pas les personnes ayant la double nationalité occupant des postes stratégiques au sein de l'État. Ce poste est uniquement destiné aux citoyens français sans double nationalité. Un sénateur français de gauche, Pierre Ouzoulia, dans la plateforme X citée par le média Guardian, a déclaré que l'idée que certains postes excluraient les personnes ayant la double nationalité montre une vision ethnique de la nation qui différencie le peuple français. En 2022, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen, avait proposé de mettre fin au droit au regroupement familial pour les étrangers titulaires d'un titre de séjour en France. Elle a également proposé de mettre fin aux droits automatiques de citoyenneté pour tout bébé né d'un étranger résident en France. Le Pen a également proposé à plusieurs reprises d'interdire l'usage du hijab dans les lieux publics, ainsi que d'interdire la production de viande halal. Ces propositions ont conduit un certain nombre de groupes à considérer le Rassemblement national comme islamophobe. La droite européenne est souvent qualifiée de mouvement anti-immigration et critique le multiculturalisme. Pendant ce temps, plus de 10% de la population française est composée d'immigrés qui possèdent déjà la citoyenneté de ce pays. La plupart d'entre eux viennent de pays à majorité musulmane comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies garantit 30 droits humains fondamentaux, dont le droit à la vie, le droit à la non-discrimination et à l'égalité devant la loi et le droit à la liberté de réunion. Les efforts visant à empêcher les groupes de droite d'accéder au pouvoir en France peuvent être considérés comme un effort de défense des droits humains fondamentaux garantis par les Nations Unies. Bon, cher jeudi tard, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 5 juillet 1959. Le président Sukarno a publié un décret présidentiel. Le décret présidentiel du 5 juillet 1959 était une décision émise par le premier président indonésien Sukarno. Ce décret a été publié après que la Constituante, l'institution créée à la suite des élections de 1955, n'ait pas été en mesure de terminer son mandat à rédiger la constitution indonésienne. Le président Sukarno a officiellement publié un décret présidentiel au Palais Merdeka à Jakarta. Le décret dissout l'Assemblée constituante et remet en figure la Constitution de 1945, remplaçant la Constitution provisoire en 1950. Ce décret marque le début de la démocratie guidée, un système politique centré sur Sukarno et en figure jusqu'à sa chute en 1966. Le 5 juillet 1996, la naissance du premier mammifère cloné. Dolly, une brebis issue de clonage, est née le 5 juillet 1996 au Roslin Institute d'Édimbourg, en Écosse. La naissance de Dolly a choqué la communauté scientifique de l'époque parce qu'elle était le premier mammifère né de clonage. Selon la page compass.id, Dolly a été créée en utilisant des cellules provenant des glandes mammaires de moutons adultes morts pour créer un animal vivant génétiquement identique à son donneur. Seulement 6 ans après sa naissance, Dolly est morte le 14 février 2003. Le 5 juillet 2004, l'Indonésie a organisé sa première élection présidentielle. Les élections générales de 2004 pour le président et vice-président de l'Indonésie ont lieu le 5 juillet 2004. Pour la première fois, le peuple indonésien a pu élire directement le président et vice-président par l'intermédiaire de l'Assemblée consultative populaire comme auparavant. Le premier tour des élections présidentielles directes a réuni 5 paires de candidats à la présidence et vice-présidence. Le résultat, 2 candidats à la présidence et vice-présidence, à savoir Susilo Bambang Yudhoyono et Yusuf Kalla, et Megawati avec Hashim Muzadi, se sont qualifiés pour le second tour. Susilo Bambang Yudhoyono et Yusuf Kalla ont été élus président et vice-président de l'Indonésie pour la période 2004-2009. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Jangan sensi macam orang sakit. Bob is in the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out.
Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Gouvernement soutient les produits locaux à travers le Forum et l'Expo de l'Indonésie avancée 2024 ». Le gouvernement indonésien Pangtam Mendiang de la Direction générale de la politique et du gouvernement général du ministère de l'Intérieur organise le Forum et l'Expo de l'Indonésie avancée 2024 pour soutenir les produits locaux et les micro, petites et moyennes entreprises MPME. Comme cité sur la page Antara jeudi 4 juillet, l'exposition durera 4 jours du 4 au 7 juillet 2024 à l'Assemblée Hall du Jakarta Convention Center, JCC. Le directeur général par intérim de Polpum du ministère des Affaires intérieures, Togab Simangunsong, a expliqué que le Forum et l'Expo de l'Indonésie avancée 2024 ont lieu pour soutenir stratégiquement la reprise économique et encourager le climat économique d'exportation. En dehors de cela, l'exposition vise également à ouvrir l'accès à l'information et à promouvoir le potentiel économique, social et culturel de l'Indonésie. Togab, dans sa déclaration à Jakarta, jeudi expliquait que cette exposition fait partie de la résilience économique, sociale et culturelle. Togab également a révélé que cette fois, le Forum et l'Expo de l'Indonésie avancée 2024 était la quatrième à se tenir, à savoir que la première expo s'est tenue virtuellement en 2021 pendant la pandémie de COVID-19. La deuxième expo s'est poursuivie en 2022 au JCC et en 2023 à Taman Mini Indonesia Indah TMII. Dans son histoire, Togab a déclaré qu'à cette époque, le président Joko Widodo avait publié l'instruction présidentielle ou une presse numéro 2 de 2022 concernant l'accélération de l'utilisation croissante des produits nationaux et des produits des micro et petites entreprises et des coopératives afin de faire du mouvement national fièrement fabriqué en Indonésie un succès dans la mise en œuvre des achats de biens et des services Guru Mangto. Il espère que tous les produits locaux de la région pourront fonctionner et le plus important ici concerne les produits locaux indonésiens. Togab a déclaré qu'il y avait environ 100 exposants venant de divers secteurs tels que les ministères, les institutions gouvernementales, les gouvernements régionaux, les entreprises régionales, BOMD, les entreprises publiques, BOMN, le secteur privé, les institutions non gouvernementales, les associations et les acteurs des MPME. C'est Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Tersenyumlah Indonesiaku.
yang indah, menatap jauh masa depan. Kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia. Kan ku berikan semangat terbaikku, cintaku untukmu negeriku. Masa depan yang indah bersamamu, tersenyumlah Indonesiaku.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et cette fois, je vais vous présenter la plage de Suromanis de Java Central, avec moi Audrey. Chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui aiment le tourisme balnéaire, nous vous recommandons cette fois l'une des plages de Kebumen, dans le centre de Java. Son nom est la plage Suromanis. Cette plage est unique car elle possède une cascade qui se jette dans la mer. L'emplacement est dans le village de Pasir, district d'Aya, régence de Kebumen, province de Java Central. La distance est d'environ 40 km du centre-ville de Kebumen. Le prix du billet d'entrée pour cette zone de plage est de 12 500 roupies par personne. Ce tarif comprend les frais de stationnement. Pour les visiteurs qui souhaitent camper dans cette zone balnéaire, il faut débourser 15 000 de roupies par personne. Chers auditeurs, la place de Suromanis possède une belle plage de sable noir brunâtre propre. La longueur de la ligne de la plage sur Romanis est d'environ 600 mètres. Vous pouvez jouer sur le sable de la plage ou nager dans la mer. Cette plage a également une topographie vallonnée, ce qui vous satisfait car vous pouvez découvrir deux atmosphères touristiques différentes, à savoir la colline et la plage au même endroit. Ici, vous pourrez également explorer les collines car l'accès est assez facile. Outre les collines et les falaises, une autre attraction de cette plage sont les rochers et les vagues. La plage de Souroumanis est entourée de rochers coralliens, les fortes vagues typiques de la côte sud sur laquelle entre en collision avec les rochers, créent un spectacle enchanteur. Une autre attraction tout à fait unique de cette plage est qu'il y a une cascade à l'extrémité ouest de la plage qui se jette directement dans l'océan Indien. La plage de Souroumanis offre également des installations adéquates, telles qu'un grand parking, un centre d'information, des toilettes, des restaurants et des salles de prière. En dehors de cela, il y a aussi des jeux, un terrain de camping et plusieurs spots photos instagrammables. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer la nuit, cette plage propose également des hébergements ou des cottages. Bon chargeur et tard, c'est tout. Le magazine culturel.
In a lifetime, I'm so tired of frowning. You're no healer. You think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. Never gonna be what you want anymore.
Take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, I'm gonna take.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes déjà avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Café Papou est demandé par les acheteurs européens et japonais. Avec Maudrey. Chargeur le chef du représentant de la banque Indonesia en Papouasie, Fatur Rahman, a déclaré que le café Papou était demandé par les acheteurs d'Europe et du Japon lors de l'événement World of Coffee à Copenhague, au Danemark. Fatur Rahman a expliqué que lors de cet événement, trois acheteurs d'Europe et du Japon étaient intéressés par l'achat de café de Papouasie. Les trois acheteurs européens et japonais ont immédiatement signé un accord de transaction commerciale avec un volume d'exportation potentiel de 9 tonnes, soit l'équivalent de 1,45 milliard de roupies. Le café demandé est le café Beyond Border d'un volume de 2 tonnes ou d'une valeur de 300 millions de roupies. Le café Antosoro d'un volume de 6 tonnes ou d'une valeur de 1 milliard de roupies et le Steelhouse Café d'un volume d'un tonne ou d'une valeur de 150 millions de roupies. Chargeur World of Coffee qui se tiendra les 27 et 28 juin 2024 à Copenhague, au Danemark, est un salon professionnel du café inter-entreprise qui met en relation les producteurs de café avec des distributeurs et ou des consommateurs du monde entier. Le thème de cette activité est nature raffinée, durabilité définie. L'Indonésie s'engage toujours à présenter un café qui met en œuvre des pratiques durables. La participation du Café Papou à l'événement World of Café fait cette fois également partie du Road to Papua Coffee Festival qui se tiendra en août 2024. Chargeur, le café Papou est l'une des altitudes de culture du café les plus élevées d'Indonésie, ce qui lui confère des caractéristiques gustatives uniques et différentes par rapport au café d'autres régions. En dehors de cela, le processus de culture qui préserve la sagesse locale en utilisant les principes de durabilité ou l'utilisation d'ingrédients biologiques et d'inclusion, c'est impliquant toutes les communautés autochtones de la zone de culture du café, à son propre attrait aux yeux des acheteurs potentiels. Bon chargeur et tard, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
Memang ku punya salah, ku salah, eh. Tapi seperti dulu dengan cinta yang baru yang berbeda dari waktu ke waktu. Memang ku punya salah, ku salah, yeah. Tapi kini ku ingin tunjukkan masa laluku mendewasakan.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Nusa Tenggara occidentale. Sachez tard, l'Indonésie est riche en langues régionales. C'est aussi ce qui fait la diversité des chansons régionales indonésiennes, comme la chanson que je vais jouer pour vous, Ngiring Sampang. Une chanson pop régionale sasak est de la province de Nusa Tenggara occidentale. Ngiring Sampang signifie « S'il vous plaît, arrêtez-vous ». Cette chanson raconte la complicité entre deux amis d'enfance qui ne se sont pas vus depuis longtemps. À travers des paroles et des airs joyeux, cette chanson invite les amis à rentrer à la maison pour soulager leurs désirs. La chanson « Ngiring Sampang » est l'une des chansons régionales souvent chantées par les habitants de Lombok. Chers auditeurs, voici la chanson de Ngiring Sampang de Lombok, Nusa Tenggara occidentale, chantée par Sinta Aleika. Bonne écoute. Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.